Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. J'ai eu récemment l'occasion d'évoquer, au cours de cette émission, la pièce de Jean-Anouilh Beckett, Ou l'honneur de Dieu. Je souhaiterais aujourd'hui parler d'une autre pièce consacrée à Thomas Beckett, mais qui n'a absolument rien à voir avec la pièce de Jean-Anouilh. Je veux parler de la pièce de T.S. Eliot, Meurtre dans la cathédrale. T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, est né en 1888 dans le Missouri, à Saint-Louis. Il est décédé à Londres en 1965. Son grand-père était pasteur, et très tôt il va rejoindre l'Angleterre, et c'est là qu'il mourra, à Londres, donc, en 1965, après s'être converti à l'anglicanisme. Venons à sa pièce « Meurtre dans la cathédrale », qui se situe entre le 2 décembre 1170 et le 29 décembre de la même année, c'est-à-dire le jour où Thomas Beckett a été assassiné dans la cathédrale de Canterbury. Cette pièce a été créée en France en 1945 par Jean Villard, qui l'a reprise d'ailleurs quelques années plus tard au cours du Festival d'Avignon. Elle a été jouée aussi par Laurent Terzieff. Et peut-être pourrez-vous vous procurer la version télévisée avec Alain Cuny. Donc, Alain Cuny, Laurent Terzieff, Jean Villard, trois acteurs très mystiques qui ont trouvé dans cette pièce peut-être une voix pour dire ce qu'ils ressentent en profondeur. Mais revenons à la pièce proprement dite. Elle commence donc le 2 décembre 1170. Au début, cela se passe dans le palais de l'archevêque de Canterbury. Beckett, qui s'est réfugié en France pendant 7 ans, pour échapper au baron du roi prêt à l'assassiner. On est donc dans le palais de l'archevêque. Voici un extrait de la pièce dans la première partie. Un prêtre parle. Je crains pour l'archevêque. Je crains pour l'Église. Je connais que l'orgueil issu de la prospérité soudaine ne fut que confirmé par l'amère infortune. Je l'ai vu chancelier, adulé par le roi, aimé ou redouté des courtisans, méprisé mais rendant le mépris et toujours solitaire, ne devenant jamais un de leur race, et toujours incertain. Son orgueil tirant substance de ses vertus particulières. Orgueil tirant substance de l'impartialité, orgueil tirant substance de la générosité. Abhorrant le pouvoir acquis par la dévolution temporelle, désirant se soumettre à Dieu seul. Si le roi eût été plus grand ou bien plus faible, la fin des choses eût été tout autre pour Thomas. Et pourtant, Monseigneur nous est revenu. Monseigneur est revenu parmi les siens. Nous avons assez attendu d'un morne décembre au décembre suivant. L'archevêque sera notre chef. Il chassera l'épouvante et le doute. Il nous dira ce que nous devons faire. Il nous donnera des ordres. Il nous guidera. Nous pouvons prendre appui sur le roc. Nous pouvons sentir nos pas assurés comme le remous incessant du flux et du reflux des conflits de pouvoir entre barons et maîtres des terres. Le roc du Seigneur est sous nos pieds. Allons saluer l'archevêque et lui rendre cordiales actions de grâce. Monseigneur, notre archevêque est de retour et quand l'archevêque revient, nos doutes sont dispersés. Réjouissons-nous donc, je dis, réjouissons-nous, montrons pour l'accueillir un visage riant. Je suis l'homme de l'archevêque. Allons souhaiter la bienvenue à notre archevêque. À côté des prêtres, il y a un cœur de femme qui observe ce qui se passe, qui commente, qui ne sait jamais trop comment réagir. Le cœur, donc les femmes de Canterbury. Ici, pas de cité durable. Ici, pas de séjour définitif. Mauvais le vent, mauvaise l'humeur, incertain le profit et certain le danger. Oh, il est tard, très tard, beaucoup trop tard. L'année s'en va en pourriture. Cruel le vent, âpre la mer et gris le ciel, gris à n'en plus finir. Retourne, ô Thomas, archevêque, va-t'en, rentre en France, rentre. Vite. Sans bruit, laisse-nous périr paisiblement. Les acclamations t'accueillent et les réjouissances, mais la mort t'accompagne à Canterbury. Le destin pèse sur ta maison, pèse sur tout, pèse sur l'univers. Nous souhaitons que rien ne se passe. Nous avons vécu 7 ans dans la paix, réussi à nous faire oublier, vivant ou vivant à demi. Il y a eu le luxe, l'oppression, il y a eu misère et licence et 1000 injustices mineures. Mais nous avons continué de vivre, vivant ou vivant à demi. Tantôt le blé nous a manqué, tantôt la moisson est belle. Une année apporte la pluie et telle autre la sécheresse. Une année des pommes foisonnent et telle autre les prunes sont rares, mais nous avons continué de vivre. Vivant ou vivant à demi, nous avons célébré les fêtes, nous avons entendu les messes, nous avons brassé bière et cidre, rentré du bois pour tout l'hiver, bavardé au coin du foyer, bavardé au coin de la rue, bavardé, pas toujours tout bas, vivant ou vivant à demi. Nous avons vu naissance, mort et mariage. Nous avons eu scandales variés. Nous avons gémi sous l'impôt, nous avons ri et cancané. Plusieurs filles ont disparu mystérieusement, d'autres ne l'ont pu. Nous avons tous eu nos terreurs personnelles, nos ombres bien à nous et nos craintes secrètes. Et voici qu'une grande peur nous oppresse. Une peur non pas singulière, mais unanime. Une peur comme la naissance et la mort. Quand nous voyons la naissance et la mort isolées dans le grand vide, nous avons peur d'une peur qui nous dépasse, que nous ne pouvons affronter, que personne ne comprend. Et nos cœurs nous sont arrachés, nos cerveaux décortiqués comme on pèle les oignons, et nous voici perdus et engloutis dans une ultime terreur que personne ne comprend. Ô Thomas, archevêque, ô Thomas, Monseigneur, laisse-nous subsister dans ce cadre modeste, éterni de notre existence. Laisse-nous, ne nous demande pas de subir le destin qui pèse sur ta maison, pèse sur l'archevêque, pèse sur l'univers. Toi que n'alarme pas les ombres, comprends-tu ce que tu demandes ? Comprends-tu ce que signifie pour les petites gens entraînées dans la trame de la destinée, les petites gens qui vivent au milieu des petites choses, ce que signifie cet effort du cerveau pour ces petites gens qui vont subir le destin qui pèse sur ta maison, qui pèse sur leur archevêque, qui pèse sur le monde. Ô Thomas, archevêque, laisse-nous. Laisse-nous. Thomas, notre archevêque, laisse-nous. Laisse-nous et t'enfuis en France. Nous allons retrouver à présent l'archevêque Thomas Becket dans la cathédrale de Canterbury, toujours ce 2 décembre 1170. Et quatre tentateurs viennent parler avec Thomas. Et le quatrième tentateur lui dit « Va de l'avant. » Jusqu'au bout, toutes les autres voies te sont fermées, fort la voie déjà choisie. Mais que valent plaisir exercé du pouvoir royal ou bien pouvoir des hommes exercés sous un roi, avec la ruse dans les coins, les stratagèmes cauteleux comparés à la pleine maîtrise du pouvoir spirituel. L'homme gémit sous le péché depuis la chute d'Adam. Tu détiens les clés de l'enfer et du ciel, le pouvoir de lier et de délier. Enchaîne, Thomas, enchaîne, évêques et rois, sous tes talons, rois, empereurs, évêques, barons, rois, maîtrise incertaine d'armées, vulnérables, guerre, peste, révolution, conspiration nouvelle, pacte rompu, être maître ou valet en l'espace d'une heure. Tel est le cours du pouvoir temporel. Tu tiens les chevaux, Thomas. 10 ensemble, le fil de la vie et de la mort éternelle. Tu détiens ce pouvoir, tiens-le ferme, suprême en ce pays, suprême hormis un seul. Et finalement, la pièce va se poursuivre avec un interlude qui est le prêche de Thomas Becket, archevêque de Canterbury, dans la nuit de Noël 1170. Voici l'interlude de Meurtre dans la cathédrale, le prêche de Thomas Becket. Mes chers enfants de Dieu, mon sermon ce matin sera très bref. Je voudrais seulement que vous réfléchissiez et méditiez sur le sens profond et le mystère de nos messes de Noël. Car chaque fois que nous disons la messe, nous refigurons la passion et la mort de notre Seigneur. Et en ce jour de Noël, nous la disons pour célébrer sa naissance. Ainsi, au même moment nous nous réjouissons de sa venue pour la rédemption des hommes et nous offrons à nouveau à Dieu son corps et son sang en sacrifice, oblation et expiation pour les péchés du monde entier. Ce fut au cours de cette même nuit qui vient de finir, qu'une multitude d'anges célestes apparut aux bergers de Bethléem, disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Et c'est en ce seul jour, le seul de toute l'année que nous célébrons à la fois la naissance de notre Seigneur, sa passion, et sa mort sur la croix. C'est là se conduire d'étrange façon, car quel est l'homme au monde qui va se lamenter, se réjouir à la fois pour la même raison? C'est donc que dans nos mystères chrétiens que nous pouvons nous réjouir et nous lamenter à la fois et pour la même raison. Mais pensez un instant au sens de ce mot « paix ». Vous paraît-il étrange que les anges aient annoncé la paix alors que le monde a été sans répit, frappé par la guerre et la peur de la guerre? Vous apparaît-il que les voix angéliques se trompaient, que la promesse a été déception et tricherie? Considérez aussi une chose à laquelle vous n'avez sans doute jamais pensé. Non seulement à la fête de Noël, nous célébrons à la fois la naissance de notre Seigneur et sa mort, mais le lendemain, nous célébrons le martyr de son premier martyr, le bienheureux Étienne. Un martyr n'est jamais le dessein de l'homme. Le vrai martyr est celui qui est devenu l'instrument de Dieu, qui a perdu sa volonté dans la volonté de Dieu, qui ne l'a pas perdu mais trouvé, puisqu'il a trouvé la liberté dans la soumission à Dieu. Le martyr ne désire plus rien pour lui-même, pas même la gloire de subir le martyr. Je vous ai parlé aujourd'hui, mes chers enfants, des martyrs du passé, parce qu'il convient le jour de la naissance du Christ de se rappeler ce que c'est cette paix qu'il apporta. Et parce que, mes chers enfants, je ne crois pas que je prêcherai jamais plus pour vous. Et parce qu'il est possible que dans peu de temps, vous ayez encore un autre martyr et qu'il ne soit pas le dernier. J'aimerais que vous gardiez dans vos cœurs ces paroles que je vous dis et que vous y pensiez en un autre temps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La seconde partie donc, de Meurtre dans la cathédrale de T.S. Eliot. Nous voici le 29 décembre 1170 dans la cathédrale de Canterbury. Thomas Becket sait qu'on vient le tuer. Les prêtres qui desservent la cathédrale à ses côtés veulent le faire fuir, veulent au moins fermer les portes de la cathédrale. Voici la réplique de Thomas. Débloquez les portes. Ouvrez les portes toutes grandes, je ne veux pas que la maison de la prière, l'église du Christ, le sanctuaire, devienne une forteresse. L'église protégera les siens à sa façon, et non pas comme le chêne et la pierre. Chêne et pierre pourrissent, ne fournissent point de soutien, mais l'église durera. L'église doit être ouverte même à nos ennemis. Ouvrez la porte, débloquez la porte. Vous me croyez téméraire, désespéré, dément. Vous raisonnez d'après les résultats comme le fait ce monde-ci. Pour décider si telle action est bonne ou mauvaise, vous en déférez au tribunal du fait. Pour chaque vie, pour chaque acte, on peut montrer la conséquence et du bien et du mal, et comme avec le temps les résultats de 1000 actions se mêlent, ainsi se confondent enfin et le bien et le mal. Ce n'est pas dans le temps que ma mort sera connue. C'est en dehors du temps que ma décision est prise. Si vous appelez décision ce à quoi mon être tout entier donne total consentement, je donne ma vie à la loi de Dieu au-dessus de la loi de l'homme. Ceux qui ne font pas de même, comment sauraient-ils ce que je fais? Comment sauriez-vous ce que je fais? Et pourtant, combien davantage devriez-vous en savoir que ces insensés qui martèlent la porte. Débloquez la porte. Débloquez la porte, nous ne sommes pas ici pour triompher par le combat, par la ruse ou la résistance, ni pour nous battre avec des bêtes en tant qu'hommes. Nous avons combattu la bête et nous l'avons vaincue. Nous n'avons plus qu'à vaincre maintenant par la souffrance. Maintenant, c'est le triomphe de la croix. Maintenant, ouvrez la porte, je l'ordonne. Ouvrez la porte. Entre les chevaliers. Et voici les dernières paroles de Thomas. Et maintenant, entre vos mains, Dieu Tout-Puissant, bienheureuse Marie, toujours vierge, bienheureux Saint Jean-Baptiste, saints apôtres, Pierre et Paul, bienheureux martyrs, Denis et vous, tous les saints, je remets ma cause et celle de l'Église. Les chevaliers le tuent. Et la pièce se termine sur les commentaires du cœur des femmes de Canterbury. Nous te louons, ô mon Dieu, pour ta gloire déployée dans toutes les créatures de la terre, dans la neige, dans la pluie, dans le vent, dans la tempête, dans toutes tes créatures, à la fois les chasseurs et les victimes, car toutes les choses n'existent qu'autant que tu les vois, qu'autant que tu les connais. Toutes les choses n'existent que dans ta lumière, et ta gloire éclate même en cela qui te nie. Ainsi les ténèbres proclament la gloire de ta lumière, et ceux qui te nient ne pourraient pas nier si tu n'existais pas. Et leur négation n'est jamais complète que ça, car si elle l'était, ils n'existeraient pas. Ils affirment ton existence en vivant. Toutes les choses affirment ton existence en vivant. L'oiseau dans l'air, que ce soit faucon ou bouvreuil, la bête sur la terre, que ce soit le loup ou l'agneau, le ver dans la terre et le ver dans le ventre, l'homme par conséquent que tu as créé, pour qu'il ait conscience de toi, doit te louer en pleine conscience, en pensée, en parole et en action. Même la main sur le balai, le dos ployé en disposant le feu, le genou plié en nettoyant le foyer, et nous, les récureuses, les balayeuses de Canterbury, le dos ployé sous le labeur, le genou plié sous le péché, les mains cachant le visage sous la peur, la tête sous le chagrin, même en nous, la voix des saisons, le nasillement de l'hiver, la chanson du printemps, le bourdonnement de l'été, la voix des bêtes et des oiseaux, chante ta louange. Je vous remercie de m'avoir écouté.